bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites choses comme d'habitude. On va parler d'actualité en lien avec le style de vie, fitness, style de vie, en fait, efficacité, enfin, tous ces trucs-là. Je ne sais plus trop comment on peut les appeler maintenant parce qu'il y a tellement de termes et tout ça. Mais bon, le but, c'est d'avancer, d'être mieux dans sa peau, entre guillemets, hein, même si c'est pareil, ça c'est un peu un terme, je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est ce genre de terme, malheureusement, c'est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui. Moi, j'aime bien avoir une ligne directrice, c'est-à-dire le fitness comme ancre, et après, d'essayer de trouver des petites choses tout autour de ça qui permettent d'améliorer ça. D'ailleurs, j'avais récemment, on en parlait... avec des amis, c'est vrai que l'optimisation, en tout cas le fitness, ne se cantonne pas que à l'entraînement et à la nutrition et au sommeil, la récupération, tout ça, mais bien à tout plein de petites choses comme ça. Alors moi, j'aime bien aller explorer, par exemple, les gadgets, la psychologie, des choses comme ça. Et de plus en plus, je me rends compte que beaucoup de personnes, donc certainement ceux qui m'écoutent en podcast, donc peut-être toi, vous, je sais pas comment je dois vous appeler, mais en tout cas, de plus en plus de personnes se rendent compte qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir un style de vie fitness, mais en fait, il y a plein de petites façons d'améliorer son quotidien. Bref, petite introduction qui servait à rien, mais elle était nécessaire pour les nouveaux qui nous découvriraient et qui s'attendraient à un podcast uniquement sur combien de séries il faut faire pour prendre du muscle. Voilà. Donc, si je peux me permettre de faire une petite page de publicité avant de démarrer, j'ai fait ce week-end, donc j'ai sorti ce week-end. Alors, la formation, moi, je l'avais tournée il y a 15 jours, puisque j'ai quand même un petit peu d'avance maintenant, sur comment développer une volonté de faire. Alors, je sais, le titre est un petit peu violent, mais finalement, c'est la réalité. C'est-à-dire que même si le titre est un peu violent, c'est quand même la réalité, parce que après pas mal de lectures, de recherches et tout ça, j'ai pu mettre, je crois qu'il y a 27 ou 28 conseils pour développer sa volonté. Et donc, je les ai mis en lien directement dans une vidéo qui va durer pas mal de temps de mémoire. On est sur une bonne grosse vidéo. D'ailleurs, tous ceux qui sont VIP, mais vous le savez peut-être pas, mais quand vous êtes en train de regarder une formation, par exemple celle sur la volonté, il y a une petite touche sur le lecteur. Alors, je crois de mémoire, c'est en haut à gauche sur le lecteur quand vous êtes sur mobile, avec une espèce de petit rectangle avec une flèche et un autre petit rectangle. Ça, c'est le PIP, donc c'est Picture in Picture, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la vidéo où vous voulez sur votre écran et surtout quitter la page de la formation pour pouvoir, je sais pas, par exemple, aller dans l'application Notes, prendre des notes ou même mettre la petite vidéo sur la droite de votre écran et en fait, elle va se masquer. Il y aura juste une petite flèche et vous aurez que l'audio. Donc, tous ceux qui me demandaient est-ce qu'on peut les écouter sans avoir à regarder l'image, oui. Et du coup, la vidéo va se mettre sur le côté, vous n'aurez plus l'image, vous pourrez naviguer sur votre téléphone comme vous voulez. Évidemment, vous ne pourrez pas aller sur YouTube en même temps, sinon ça va couper la vidéo. Mais vous pourrez écouter la vidéo, faire pause, reprendre, avec, vous savez, le petit centre de notification là, qu'il y a sur les iPhones. Alors, je ne connais pas Android, hein, donc excusez-moi pour ça, mais en tout cas, sur iPhone, je sais que c'est possible. Moi-même, je l'ai fait, donc je peux vous dire que c'est possible. Et d'ailleurs, j'en ai parlé sur le petit canal Telegram. Je vous ai mis le tuto. Vous avez le lien, d'ailleurs, dans les notes de l'émission, là, pour aller sur mon canal Telegram. Il y a le petit tuto. Donc, pourquoi j'ai voulu parler de la volonté? Parce que, en fait, il y a une des grosses, très grosses problématiques des gens, c'est le manque de volonté. C'est le désir de s'entraîner, ils l'ont, ils ont envie de mieux manger, ils ont envie de mieux dormir, ils ont envie d'être fitness, ils ont envie d'avoir des abdos, ils ont envie de tout ça, tous ces désirs, ces envies, ils les ont. Mais par contre, la volonté de se mettre à travailler, donc à pousser, à faire tout ça, c'est plus compliqué. En tout cas, ils peuvent l'avoir parfois, c'est ce que j'avais noté, hein. Moi, j'avais mis, par exemple, le soir, en pensant à votre séance du lendemain, ça vous semble simple, vous êtes motivé et tout, et par contre, bah voilà, dès que le lendemain arrive, vous avez plus du tout la motivation, comme si à J-1 tout va bien et à jour J en fait, et la volonté elle s'est barrée, en tout cas elle a pas suivi votre rythme de la journée. J'avais mis aussi, vous n'arrivez pas à être rationnel devant un plat qui vous tente. Par exemple, je sais pas, vous êtes à la cantine du boulot, vous êtes n'importe où au restaurant, etc. Et quand vous choisissez sur la carte, vous n'êtes pas capable de prendre le choix rationnel par rapport à votre objectif. Vous êtes toujours tenté par le truc qui est bon au goût et vous savez qu'il va vous faire prendre du gras, etc. Mais ça peut être plein d'autres choses. J'avais noté aussi, vous n'avez parfois pas le temps de cuisiner sainement et vous prenez l'option simple et rapide, donc la cuisine toute faite qui n'est pas compatible avec votre style de vie. Et tout ça, finalement, ce sont des liens avec un manque de volonté, un épuisement de la volonté. Et il y avait aussi, quand vous craquez dans la journée, c'est tout le reste de la journée qui tombe à l'eau. Ça, tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Et vous êtes aussi rendu compte que quand vous avez un changement de style de vie, par exemple, je sais pas, un déménagement, la vie de couple qui change, un enfant qui arrive, du travail supplémentaire, etc., vous voyez que toute la discipline que vous avez mis en place commence à s'effondrer, en tout cas à devenir beaucoup plus fragile. Donc en fait, ça s'explique et c'est pas du hasard, c'est pas des trucs où certaines personnes ont beaucoup de discipline et beaucoup de volonté et d'autres non. Tout ça, ça se développe et les personnes qui ont de la volonté aujourd'hui, ce sont des personnes qui l'ont développé sans s'en rendre compte par des petits mécanismes, des habitudes, etc. Et donc du coup, j'ai essayé de répertorier ça. Donc comme je vous dis, de mémoire, je vous dis le sommaire, 27 causes qui épuisent votre volonté sans que vous vous en rendiez compte, les 28 solutions concrètes pour développer votre self-control et votre volonté, il y a 11 outils immédiats pour travailler sur votre volonté dès ce soir, donc directement, il y a des livres à lire, applications à télécharger, plus des petites techniques du quotidien. Et comme d'habitude, vous n'avez même pas besoin de prendre de notes durant le petit cours en vidéo, puisque vous avez un PDF avec tous les points clés. Donc franchement, je facilite à mort le travail. Et d'ailleurs, on verra que ça, c'est bon pour la volonté, pour que justement, vous puissiez... Une fois avoir regardé, alors ça dure 1h11 et 46 secondes, puisque j'ai le détail devant les yeux là. Et ben, je suis très fier de ça, et ça a eu beaucoup de retours positifs. Donc voilà, je m'arrête ici pour la publicité. Le lien est dans les notes de l'émission et on démarre le podcast dans le dur. Alors premier point, premier sujet, ça s'appelle obésité, quand le corps médical se rend coupable de grossophobie. Alors vous savez, la grossophobie, c'est un hashtag actuellement très, je ne vais pas dire à la mode, mais très tendance. Qu'est-ce que la grossophobie ? C'est le fait de... comment dire ? C'est le fait... Alors, à la fois, c'est ce dont les personnes en surpoids... ce que subissent les personnes en surpoids, la pression sociale, etc., les gens qui les cataloguent comme faibles, qui les cataloguent comme se laissant aller, qui les cataloguent comme sales, qui les cataloguent comme en mauvaise santé, etc. Et donc du coup, un petit peu comme on a eu pour plein d'autres causes avant ça, en ce moment ça prend beaucoup d'ampleur parce que voilà, c'est un sujet chaud. Et un sujet chaud qui nécessite... certainement des modifications dans la façon de voir ce sujet-là, mais également, je pense qu'il y a une forme de déni parfois qui pourrait être... il faut faire très attention à ça. Moi, je vais vous citer une partie de l'article que j'ai trouvé. Alors, c'est par rapport aux médecins. Vous savez, les médecins, quand ils annoncent, par exemple, quand ils ont un patient en face d'eux qui est en fort surpoids, voire obèse, qui ne vient pas pour ça, mais qui pourtant le médecin va dire certaines choses par rapport à leur poids, dire faites attention à ci ou à ça. Donc je cite des notes de l'article. Annoncer à un patient obèse, sans qu'il n'ait rien demandé, que son surpoids est dangereux, qu'il faut manger moins, bouger plus, s'occuper enfin de soi, envisager la chirurgie bariatrique, c'est ne pas faire preuve d'une grande originalité. Le patient se doute généralement de tout ça et peut être ressenti comme une véritable violence. Ces comportements peuvent s'expliquer par la formation suivie par le personnel médical. L'obésité y est généralement étudiée sous l'angle de facteurs aggravant les risques de diabète cardiovasculaire, troubles musculo-squelettiques, etc. Mais rarement comme maladie en tant que telle qui ne relève pas de la responsabilité du patient. Alors, on reproche en fait aux médecins de... Vous savez, le médecin, il a quand même pour mission la santé. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, ouais, c'est pas bien, il y a trop de médicaments, les diagnostics sont faits trop rapidement. Ok, il y a certainement des problèmes, comme partout. Mais de dire à un médecin qui voit un patient, qui le voit, enfin, un médecin quand même est conscient de tous les problèmes de santé engendrés par l'obésité. Et si un patient voit une personne face à lui, qui sait pertinemment qu'il est à risque élevé de diabète, de problèmes cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques, etc., etc., et qui, pour rester politiquement correct, ne lui dit pas, parce que justement, c'est un sujet chaud, grossophobie, etc., pour moi, on est dans la, comment on appelle ça, non-assistance à personne en danger, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu ça, en fait, que je perçois. Un médecin, il a signé, il a fait des études pour aider, sauver, soigner les gens. Pour les médecins qui m'écoutent, moi, je les soutiens. Alors, pas qu'ils soient brutales, mais qu'ils soient, qu'ils continuent à ne pas, en tout cas, véhiculer l'idée que d'être en fort surpoids, c'est normal et c'est être en bonne santé. Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Parce que évidemment que chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'avoir l'apparence qu'il souhaite, et ça, enfin, j'en suis convaincu. Il y a même eu historiquement des moments de notre histoire où le fait d'être en surpoids était quelque chose de positif au niveau social, je parle de l'image sociale. Mais aujourd'hui, on a suffisamment de preuves pour savoir qu'être en surpoids n'est pas bon. Dans la citation, il y avait marqué « Le patient se doute généralement de tout ça, donc des risques ». Non, c'est pas vrai. Alors, si le patient se doute généralement de tout ça, ça voudrait dire que ça y est, enfin, on considère la majorité de la population comme éveillée, intelligente et avertie. Sauf que ça va totalement à l'inverse du message global qu'on peut avoir dans les médias et tout. Puisque pourquoi je dis ça? Parce qu'on va faire un parallèle rapide avec la situation actuelle des masques. Pourquoi les masques sont obligatoires partout quasiment et pas seulement dans les endroits très à risque? Parce qu'en fait, ils savent très bien, ils nous considèrent comme, entre guillemets, peu disciplinés, ou en tout cas, ils se calquent sur... Moi, j'ai l'impression qu'ils donnent des conseils pour les moins avertis de tous. C'est-à-dire les personnes les moins... Je vais pas dire intelligentes, mais les moins pertinentes, les moins ceux qui ont qui sont les moins connectés entre guillemets, et du coup les personnes qui vont avoir les moins bonnes habitudes. J'ai horreur de parler comme ça parce que ça voudrait dire qu'il y a une sous-catégorie de personnes et une catégorie intelligente. Mais bon, le QI montre bien qu'il y a quand même des petites différences par rapport à ça. Et j'aime pas ça. Hein, je vous dis, parler comme ça, c'est séparer l'être humain en diverses catégories, ça me dérange. Mais si on regarde les études, la psychologie et tout, il y a réellement des différences. C'est politiquement incorrect de le dire, mais il y a réellement des différences au niveau des intelligences, au niveau des prises de décision et tout ça. Donc moi, je me rends compte d'une chose, c'est que si vous regardez bien, et peut-être que vous en étiez pas rendu compte, mais la majeure partie des conseils, des recommandations, des ordres qu'on nous donne à la télé sont toujours pour les personnes qui ont le plus tendance... En fait, c'est comme s'ils parlaient qu'à des personnes qui ont le plus tendance à sortir des règles, à ne pas avoir de bon sens, etc. Donc du coup, après, ça s'applique à tout le monde et les personnes qui ont un peu de bon sens, qui percutent un petit peu mieux, se demandent « mais je suis pas con, enfin je veux dire, en pleine nature, mettre le masque, ça a aucune... Enfin, c'est pas... ça sert à rien. » Et par contre, en ville, oui, effectivement, c'est bien. Mais si on se fie qu'au bon sens des gens, malheureusement... ça marchera pas correctement, donc vous avez bien vu comment ça se passe dans les médias. Donc quand ils disent là dans l'article, le patient se doute généralement de tout ça, et ben en fait c'est prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils partent dans tous les médias, dans tous les articles, on considère les gens comme bêtes, et là comme par hasard par rapport à la grossophobie, on considérerait l'intégralité des gens en surpoids comme intelligents. Et ben pourquoi? Est-ce que c'est pas possible qu'il y ait des personnes en surpoids qui pensent qu'ils sont aujourd'hui et dans le futur en super bonne santé? Moi, je trouve et je pense qu'un médecin a pour rôle de justement de dire... Enfin, de toute façon, le médecin ne donne pas d'ordre strict. Voilà, le médecin, il dit ce qu'il en est de la situation par rapport aux statistiques, être en surpoids, ses risques de ci, de ça, etc. Après, là où je suis d'accord par rapport à l'article, c'est que le discours... des médecins, et beaucoup de personnes s'en plaignent par rapport à ça, qu'il est parfois trop brutal. Alors, un médecin, évidemment, il peut pas avoir de l'empathie tellement extrême. Il est obligé d'avoir des bornes, de se cloisonner un petit peu. Sinon, il voit trois patients et il est complètement déprimé, quoi. Enfin, c'est normal. Il faut qu'il ait quand même une certaine distance par rapport au diagnostic et tout ça, pour pas se... parce que s'il est empathique avec tout le monde, il annonce deux ou trois mauvaises nouvelles par jour, c'est bon, le mec, il est en dépression, quoi. Donc, il a besoin d'une certaine distance. Donc, il y a ça. Donc, c'est pour ça que quand il pose des fois des diagnostics ou des constats, il est un peu, c'est perçu comme froid. Mais en même temps, peut-être que ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, je crois que c'est fait. Commencer à avoir des cours de savoir comment parler, en fait, aux gens, de comment leur amener ça. Et évidemment, une personne qui est en surpoids, elle le sait qu'elle est en surpoids, mais elle sait peut-être pas qu'elle a des risques au niveau de la santé. Et peut-être, possiblement, que ça pourrait être des leviers pour elle, et des leviers d'agir directement et sur le long terme. Pourquoi je dis ça ? Parce que être en surpoids, ça a des conséquences long terme, mais perdre son poids, ça peut avoir des avantages aussi court terme. On peut avoir des avantages très court terme. Tout simplement, ces problèmes de grossophobie ne se posent plus à partir du moment où on perd son poids. C'est-à-dire que la grossophobie, on peut la combattre. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est de la morale. Hein. C'est en fait, globalement, on aimerait, un petit peu comme le racisme, un petit peu comme tout un tas de choses, on aimerait que ça soit ancré dans la tête des gens et qu'on n'ait plus besoin d'en parler, que ça y est, ça soit la bonne conduite, soit comprise, etc. Moi, je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Mais la meilleure manière, quand même, de solutionner ce problème, c'est d'agir. C'est-à-dire que si la personne en souffre réellement, elle peut perdre du poids, et ça va être une conséquence qu'elle ne subira plus au quotidien. Et c'est pas comme si, vous savez, là où moi je trouve que c'est pas bon, c'est pour ça que je fais attention à ce que je raconte, il faut pas mettre les œufs dans le même panier, tous les œufs dans le même panier par rapport à l'image de soi. Une personne qui a la ligne santé. Quand je dis la ligne santé, ça veut pas dire un physique instagrammable. Je veux dire un truc avec des abdos et tout ça. La ligne santé, c'est par exemple un tour de taille correct, etc. Enfin bon, voilà, vous savez, j'ai déjà donné des chiffres dans d'autres épisodes. Mais une personne qui a la ligne, ok, très bien, elle améliore un petit peu ses chances pour sa santé future, etc. Mais si on commence à mettre trop l'accent, par exemple, sur des physiques très maigres, très secs, etc., où là, on sort de la bonne santé, et bien là, à contrario, c'est pas bon. C'est-à-dire que de pousser les gens à avoir un physique comme ça, c'est pas bon. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas où la personne, on l'encourage à améliorer sa santé. Elle a peut-être pas envie. Mais je pense que effectivement, dans le grand public, donc par exemple cette personne-là qui est en surpoids rencontre un individu inconnu, je sais pas, par exemple le serveur au restaurant qui lui dit, vous savez, être en surpoids c'est pas bien, risque cardiovasculaire. Là non, ça a pas d'importance. Le mec il se mêle de son cul et puis il fait sa vie. Mais un médecin qui a signé, enfin je sais même plus comment on dit, mais où son but, sa passion de vie, je sais pas comment je pourrais l'appeler autrement, c'est d'aider, sauver, soigner les gens. Si lui n'a plus le droit d'en parler, qui sera légitime pour en parler à cette personne-là ? Enfin, là, je trouve quand même que les médecins ont été beaucoup défendus sur des choses où moi, personnellement, j'étais pas trop d'accord. Mais là, par contre, je trouve que si on enlève ça aux médecins, qui va aider ces gens-là qui sont à facteur de risque, quoi ? Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pareil que pour l'alcool, quoi. Quelqu'un qui boit trop, le médecin lui dirait, attention, diminuez l'alcool, risque de ci, risque de ça, et puis dire, oh là là, alcoolophobie, c'est pas bien, il faut tout de suite arrêter ça. Et, non, il n'y a pas de. À un moment donné, il faut qu'il y ait au moins des gens qui soient capables de ça. Donc moi, je suis toujours dans la lignée de la grossophobie, il faut que ça disparaisse, parce que ça n'est pas lié à la santé, c'est lié à l'image. Donc le terme grossophobe, donc tout ça, c'est, il faut que ça disparaisse, ces a priori. Ce sont des personnes qui sont déjà en souffrance, ils n'ont pas besoin qu'on leur rajoute de la souffrance. C'est pas notre rôle, et c'est certainement pas, voilà, c'est pas en les pointant du doigt, on leur dit, ça va les exclure encore plus. Et enfin, moi je trouve ça terrible. Plutôt que ça, mieux vaut laisser les aidants, les soignants, faire leur job, de les aider, de les soigner, parce qu'il y en a qui souffrent réellement et qui aimeraient en sortir, et d'arrêter de faire des articles comme ça qui buzzent, de dire il faut laisser, puis il y a même des couvertures de magazines et tout. pour moi, c'est un petit peu comme dans les années, je crois que c'était les années 50-60, où on voyait des médecins sur les pubs de tabac qui clopaient et tout. C'était bizarre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est anti. Et là, aujourd'hui, avec ça, c'est pareil, de mettre des personnes obèses sur des couvertures. OK, pour l'image, il n'y a pas de problème. Mais les sous-titres de ces images, quand ils disent « on peut être obèse et en bonne santé », là, on tombe typiquement dans la fake news, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être bien averti avant de pouvoir comprendre l'actualité, parce que je suis désolé, mais être obèse et dire « on peut être obèse et en bonne santé », en fait, c'est faux. Il n'y a pas de... je veux dire, ceux qui sont un minimum connectés aux études scientifiques de ces 10 dernières années, voire même avant, tout va dans l'autre sens. Hein. Il n'y a pas d'obèse en bonne santé, sauf si vous comptez la bonne santé de se sentir bien, de réussir à marcher. Non, la bonne santé, c'est des marqueurs. Il y a plein de marqueurs de bonne santé, métabolique, l'humeur, tout un tas de choses. Et en règle générale, ils ont quand même tendance à être diminués quand le surpoids dépasse un certain chiffre, en fait, un certain ratio. Bref, ceci étant dit, je passe à la suite parce que ces sujets, en général, me touchent beaucoup. Parce que moi-même, ayant été en surpoids, je pense que le fait de savoir que c'est pas la norme pour sa santé, je parle pas pour le grand public, mais pour sa santé, aide quand même à avoir en tâche de fond l'objectif de perdre ce poids. Voilà, c'est mon point de vue. On peut ne pas être d'accord avec moi, c'est mon point de vue. Deuxième article, comment une paire de semelles intelligentes a fait de moi un meilleur coureur? Alors c'est un article que j'ai récupéré là sur un site technologique et tout ça. Alors ça s'appelle le Nerve, NURVV, se compose de deux parties, les semelles intérieures qui abritent tous les capteurs et les deux trackers qui se clipsent sur vos chaussures de course préférées. Chaque semelle intérieure dispose de 16 capteurs qui détectent la pression que vous exercez sur votre pied à chaque pas que vous faites. Avec l'application et les trackers, ils peuvent tout analyser en temps réel, de la longueur du pas à l'équilibre du pied, pour vous donner des commentaires sur la façon de réduire les blessures, etc. Bien que les semelles elles-mêmes ne soient pas nouvelles, la société a déployé des mises à jour majeures depuis leur lancement au premier semestre 2020. Donc voilà, vous avez toutes les notes dans les notes du podcast, hein. Mais c'est vrai que là, on commence vraiment à rentrer dans le biofeedback, 16 capteurs au niveau de la plante des pieds. On commence vraiment à rentrer là-dedans. Je pense qu'on pourra avoir également, avec les algorithmes et tout, des techniques pour avoir une meilleure efficacité de course et tout. Ça peut être une technique, là, notamment une personne qui avait mal au genou ne dit pas avoir guéri son problème de genou, mais bien améliorer un petit peu ses problèmes de genou. Mais je pense également que ça peut être intelligent, ce genre de choses. Alors, il faut encore voir une chose, c'est que tous ces trucs connectés, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas le corps, il en a pas plein plein les cellules de se prendre plein de rayons comme ça, de trucs qui le traquent de partout. Moi, je pense que ce genre de choses peut être bien en traitement, en périodique. Je donne un exemple. Je connais quelqu'un dans mon entourage qui a pu soigner des gros problèmes de dos avec des semelles orthopédiques. Et c'est pas un sportif. C'est quelqu'un qui travaille, qui a un métier physique et qui avait régulièrement des problèmes de dos. Et bien, ce genre de semelle l'a aidé, pas les semelles connectées, mais les semelles orthopédiques l'a aidé à solutionner ses problèmes de hanche. Et, c'était bas du dos et hanche. Et donc, du coup, si ce genre de semelle connectée qui ne sont pas des semelles, comme je viens de dire, orthopédiques. Hein. Mais si ce genre de semelle connectée peut indiquer, attention, vous avez une pression beaucoup plus importante à tel endroit du pied et de tel côté par rapport à l'autre, etc., etc., de pouvoir poser un diagnostic et donner des données beaucoup plus pointues, en plus du contrôle clinique fait par le professionnel de santé, pour justement ce genre de choses. Et moi, si je peux me permettre de détourner l'utilisation des nerfs là, de ces fameuses semelles, c'est d'essayer de creuser dans ce sens-là, de savoir comment améliorer un diagnostic pour avoir un traitement beaucoup plus efficace, que ce soit en termes de semelles, en termes de, je sais pas, de posture, etc., d'arriver chez le kiné. Par exemple, vous arrivez chez le kiné avec tous ces éléments-là, c'est bien plus que simplement répondre à ces questions, plus son rapport, son comment on appelle ça, un diagnostic clinique, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Et donc, du coup, enfin voilà. Moi, je trouve, de toute façon, ce genre de technologie, c'est comme la Fitbit, les, vous savez, les montres connectées et tout. Et je m'en sers encore, hein, j'en ai une, je m'en sers encore, mais de manière périodique sur des. Sur des moments qui sont autres. Par exemple, j'aime bien mesurer le week-end. Qu'est-ce qui se passe de mon week-end ? Parce que les jours de ma semaine se ressemblent. C'est-à-dire que je bosse à telle heure, je m'entraîne à telle heure, je marche quasiment toujours la même longueur, etc. Donc, enfin, après l'avoir porté une semaine, ben, ça change plus trop, quoi. Mais par contre, le week-end, les activités sont différentes et j'aime bien la porter le week-end parce que pour voir un petit peu d'une journée à l'autre, par exemple, quand je fais le ménage, le repassage, le jardin, que je vais marcher, que je fais du vélo, que je fais tout un tas de choses comme ça, et ben, de voir un petit peu tout ça et de voir les différences par rapport à un week-end, à un autre, quoi. Et tous ces trucs-là de biofeedback, j'aime bien les utiliser de manière ponctuelle, mais ne pas tomber dans si je l'ai pas, je me sens mal, quoi. Parce que je pars du principe que ça peut aider, mais également orienter ou même psychologiquement atteindre négativement les gens. C'est-à-dire que quand on voit qu'on n'a pas fait le nombre de pas nécessaires, on va se sentir mal. Quand on n'a pas brûlé suffisamment de calories alors qu'on a fait une super séance de muscu et qu'on voit qu'on n'a pas beaucoup brûlé de calories, on va pas se sentir bien. Et des fois, je pense que d'avoir ses propres instincts, c'est quand même aussi une bonne chose. C'est-à-dire que quand on a fait une bonne séance et qu'on se sent bien après, on n'a pas besoin d'une montre qui nous dise c'est bien ce que t'as fait. On le sent, en fait. Et donc, ça peut être bien ponctuellement, mais moi, j'aime bien utiliser pour à d'autres fins que pourquoi c'est fabriqué à la base, quoi. Bref, je passe à l'article suivant. Donc, bon, je rappelle, mais allez faire un tour sur mon petit canal Telegram. C'est gratuit, je le répéterai jamais assez, mais je partage plein de petits trucs comme ça. Et des fois, il y a des sondages et tout. Je vous mets le lien dans les notes, là. C'est le petit lien pour aller sur Telegram. Alors, santé métabolique, vaut-il mieux faire du sport le matin ou l'après-midi ? Il y a eu une étude qui a testé pas mal de personnes qui avaient d'ailleurs certaines des pathologies et le résultat, donc par rapport aux participants qui s'entraînaient le matin, ceux qui ont intérêt alors c'est vraiment de la traduction anglais-français ceux qui ont fait du sport l'après-midi ont tiré des effets bénéfiques supérieurs au niveau de la sensibilité à l'insuline, la performance à l'effort et la perte de masse grasse. Il faut noter que d'autres études ont montré que des résultats différents. Constater que l'entraînement le matin serait plus efficace, notamment lors de l'exécution et pratiqué avant le petit déjeuner. Donc en gros, on voit bien que des études, quand ils prennent des gens et qu'ils trouvent parfois des choses comme ça, parfois à l'inverse, c'est que c'est pas des grosses tendances. C'est que bien, il y a d'autres données à prendre en compte, le statut de la personne, etc. Je pense qu'une personne hyper sèche, hyper qui n'a pas de gras, et on lui fait faire du sport à jeun, ça va être certainement moins bénéfique pour elle qu'une personne qui a du poids à perdre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une personne qui est déjà sèche, faire du sport à jeun, les calories qu'elle va brûler, en plus, ça va pas être aussi bénéfique qu'une personne qui a beaucoup de gras à perdre. Donc ça peut être déjà une première donnée. Là, c'est ce que je raconte, c'est par rapport à mes propres connaissances. Attention, c'est pas par rapport à ce que dit l'étude. Enfin, si, parce que justement, l'étude dit que il peut y avoir des différences en fonction des études. Mais moi, je pense qu'il faut pousser beaucoup plus loin l'individualisation. On ne trouvera jamais, en fait, par rapport à en prenant un groupe de gens standard, c'est-à-dire que je vais dans la rue, je mets dans mon panier 100 personnes, et ben piocher dans la rue comme ça, les personnes sont tellement différentes que les résultats seront, on ne pourra pas trouver en fait une grande tendance. Pour trouver des grandes tendances, soit c'est par exemple, je vais vous donner un exemple, quelque chose qui fonctionne très bien pour tout le monde, ça fonctionne sur des petits groupes, c'est-à-dire que plus vous avez besoin d'avoir de personnes, plus ça montre que les effets sont infimes. Moins vous avez besoin d'avoir de personnes et si le résultat, tout va dans le même sens, c'est que votre truc, il est quand même relativement fiable. Admettons, si je prends 5 personnes dans la rue, petit nombre de personnes, que je leur mets un briquet sur la flamme d'un briquet sur le doigt, ça va tous les brûler. Il y a peu de chances qu'il y en ait qui se disent « Ah, ça me chatouille, ça fait du bien ». Donc là, on voit bien que c'est fiable. Quand on brûle le doigt d'une personne, elle a mal. Donc on n'a pas besoin de prendre 10 000 personnes. On voit que 10 personnes, bah, ils vont aussi être brûlés, 20 personnes aussi, donc ils vont pouvoir en dégager une tendance. Après, des choses assez pointues comme amélioration des bénéfices sur la santé du sport le matin ou l'après-midi, là, on se rend compte que ça marche pas pareil pour tout le monde. Donc, c'est là, en fait, où il faut individualiser. C'est-à-dire que qui profite du sport le matin, qui profite du sport l'après-midi, quelles sont les problématiques de la personne à traiter. Donc, si la personne sent avec peu d'énergie, bah peut-être qu'elle va plus être dans la catégorie du sport en fin d'après-midi, comme ils disent, ou alors des personnes qui ont beaucoup de graisse à perdre, bah ça sera plutôt du sport le matin. Donc ces études nous indiquent qu'on peut faire partie de certains groupes, mais ne nous donnent pas de grandes règles pour tout le monde. C'est comme ça qu'il faut voir les études. C'est dans quel groupe, potentiellement, vous trouvez-vous ? Et ça peut se, voilà, à force de lire des études, etc., ça peut, vous pouvez réussir à le définir. Donc après, il notait aussi dans l'article, l'American Diabetes Association et l'American College of Sport Medicine recommandent environ 150 minutes par semaine d'entraînement cardiovasculaire d'intensité moyenne et 2 ou 3 séances par semaine de musculation pour la santé. Donc là, 150 minutes de cardio, c'est pas énorme, mais ça fait quand même le job, hein. Enfin, quand vous faites 150 minutes de cardio par semaine, vous faites quand même du cardio. Et 2 à 3 séances de musculation par semaine également. Donc on voit quand même qu'ils recommandent d'avoir un rythme de vie. Très peu de personnes font ça aujourd'hui, hein. Vous qui m'écoutez, certainement que si, vous avez déjà un rythme de vie assez actif. Mais beaucoup de personnes ne font pas ça. Donc, et encore, je suis convaincu que ça, c'est comme les normes de, vous savez, sur les analyses de sang, c'est comme les minimums, quoi. Donc, ça veut pas dire que plus n'est pas bien aussi, hein. Mais ça veut dire que certainement que c'est un idéal minimum. Pas un idéal maximum. Pardon. Donc voilà tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'avais quand même un sujet encore qui m'intéressait. Non, celui-là, il faut que je le fasse. Allez, je prends une petite pause pour moi, mais la magie du podcast va faire que ça va continuer directement pour vous. Je bois un coup d'eau et je vous reprends après. Moi, perso, j'adore les podcasts. Je sais pas pourquoi, mais les podcasts créent un lien entre les personnes, donc les animateurs, l'animateur ou les animateurs, et les auditeurs. Ça crée un lien, en fait, je sais pas comment, mais moi, personnellement, j'écoute pas mal de podcasts sur des sujets divers et variés, de la psychologie, du cinéma, de la littérature, plein de choses différentes, et je me rends compte que, très souvent, le podcast est bien plus puissant pour même devenir un peu pote avec la personne qu'on écoute sans vraiment la connaître. Et j'espère avoir réussi à créer ce lien avec vous, je sais, parce qu'il y en a qui m'envoient des fois les petits messages pour me dire que c'est le petit rendez-vous du mardi. Moi, j'adore ça parce que j'adore l'être, ce petit rendez-vous pour vous, mais j'adore aussi avoir mes propres petits rendez-vous avec d'autres podcasteurs, et je trouve ça génial. Donc voilà, petite bulle de détente avant de commencer sur ce sujet qui s'appelle « 7 clés pour en finir avec la solitude ». Alors là, on rentre dans la psycho. Donc il donne là dans l'article 7 clés pour en finir avec la solitude. C'est toujours des mots, des titres un peu ravageurs, hein. Ce serait trop beau de pouvoir en finir avec un article, mais voilà les notions qu'il donne. Premier point, s'interroger sur ses besoins. Donc il est important de hiérarchiser ses besoins et ses manques pour ne pas se tromper de priorité. Deuxième point, prendre soin de soi. L'isolement et le repli sur soi non volontaire sont des facteurs d'altération de l'estime de soi. Plus on se sent exclu, moins on s'attribue de valeur personnelle et moins on se traite bien. Troisième point, combattre la négativité. Les chercheurs ont constaté que le sentiment de solitude et d'isolement rendait les gens plus négatifs et plus critiques. On en est au quatrième point, se relier. Donc l'un des pièges de l'isolement et du sentiment de solitude est de négliger les petits liens du quotidien. Cinquième point, prendre soin des autres. Se sentir utile renforce la bonne estime de soi et change la dynamique relationnelle. Sixième point, se remettre en question. Notre famille était-elle ouverte ou fermée, dans le jugement ou tolérante, radine ou généreuse, etc., etc. Donc la remise en question, quoi. Et septième point, bien dormir. De nombreuses études ont montré que le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité avait eu un effet désocialisant. Donc voilà, sept points à travailler, sept clés pour travailler un petit peu ce sentiment de solitude qui va beaucoup avec le contexte actuel, je trouve. Et c'est vrai que beaucoup de personnes le disent quand ils se sentent seuls. Moi, des fois, ça m'arrive de parler à des gens et je leur dis, mais est-ce que ça, tu ressens ça, par exemple, quand tu vas voir un ami? Comment tu ressens ces problématiques-là? Et en règle générale, ils me disent non. Et souvent, je leur dis, mais comment quand par exemple tu vas boire un café avec un pote l'après-midi, ou est-ce que ta fin de journée et tu te sens aussi dans la même, même si t'es seul dans la fin de journée parce que t'es rentré chez toi, est-ce que tu ressens la même chose que d'habitude ou c'est différent? Et souvent les gens disent que c'est différent, ils se sentent mieux, etc. Donc oui, ces petits liens, mais c'est vrai que plus on, la solitude a quelque, alors avant de terminer ça, je vais parler un petit peu de manière personnelle. Moi, j'ai remarqué une chose que j'ai réussi à catégoriser plus ou moins deux types de personnalités. Il y a des personnalités, par rapport, je parle avec la solitude, il y a des personnes qui s'épuisent dans la solitude. C'est-à-dire que quand ils se sentent seuls, ils ne se sentent pas bien, ça a tendance à les mettre vraiment très rapidement dans un sentiment de mal-être, etc. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ont besoin de la solitude pour se ressourcer temporairement avant de retourner dans un contexte social plus riche. Je fais partie de la deuxième catégorie de personnes. Alors, est-ce que c'est dû à mon enfance ? Moi, vous savez, j'ai grandi entouré de nature. J'en ai déjà parlé dans plein de podcasts et plein de vidéos. J'ai grandi mes premières années de vie jusqu'à mes 10 ans. À peu près, j'ai grandi avec 80 hectares de forêt autour de moi. C'est-à-dire que je n'avais pas de ville ni de village à proximité. Je vivais dans une ferme aménagée. Alors attention, les 80 hectares, on n'était pas propriétaire. Mes parents étaient gardiens. Vous savez, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, d'être gardien d'une propriété. C'est-à-dire qu'il y avait des riches parisiens qui avaient en campagne une très belle demeure. Ils avaient aménagé les granges en logement et pour mettre du, entre guillemets, ce qu'on dirait avant le petit personnel. Et le petit personnel, c'était mon père et ma mère. Et donc, du coup, ils s'occupaient de cette demeure en échange d'avoir un logement. Et moi, j'ai été élevé là-dedans. La chance que j'ai eue, parce que moi j'ai réellement vu ça comme une chance, beaucoup auraient dit la vie a été dure, non, pour moi ça a vraiment été une chance parce que j'ai été connecté à la nature tout de suite. C'est-à-dire qu'autour de moi c'était de la forêt, alors c'était la Sologne, hein, pour vous donner une localisation, aujourd'hui je vis dans le sud de la France, mais à l'époque c'était la Sologne, je vivais là-bas, autour de moi c'était de la nature. Donc forcément, et j'en suis convaincu que ça a conditionné ma façon d'être. C'est-à-dire que moi, la nature me ressource, la nature me donne de l'énergie, et ce côté inverse, c'est-à-dire le centre-ville avec beaucoup de monde et tout, a tendance plutôt à m'épuiser. Je suis moins équipé pour ça que pour la nature et le côté sauvage des choses. Mais ce qui ne veut pas dire que la solitude est bonne pour moi. Ça veut dire que je peux aller dans la solitude, me ressourcer. Mais y rester trop longtemps n'est pas bon. C'est là où il y a un piège, et j'en parlais à un ami qui est comme moi. Le piège, c'est qu'on apprécie tellement la nature et la solitude qu'il faut faire attention, parce qu'on peut trop s'isoler. Donc, on doit faire un effort volontaire pour resocialiser, etc. Trouver un équilibre. Et il y a des personnes, c'est l'inverse en fait. Il y a des personnes qui vont se ressourcer quand ils sont avec du monde, mais donc du coup, vu que c'est positif pour eux, ils vont en abuser. Et donc après, finir un petit peu, ne plus savoir où donner de la tête, parce qu'ils savent plus si c'est des amis, pas des amis. Ils vont tomber, vous savez, dans les, pas les complots, mais les ragots, les machins. Et eux, ils auraient besoin d'aller dans la nature un petit peu pour souffler et décompresser. Et en fait, comme je le disais pour plein d'autres sujets, c'est un état d'équilibre. Mais on a une dominante quand même. Moi, je sais que ma dominante, c'est je me ressource dans la. Alors quand je dis la solitude, c'est ça peut être en couple ou en petit comité. C'est pas forcément être seul comme un con. Ça veut dire être en petit comité dans la nature, dans des lieux paisibles, et après revenir un petit peu plus à la, on va dire, au monde avec plus de circulation, plus de bruit ambiant, etc. Et mais il faut jongler entre les deux, sinon on se désadapte en fait, et c'est pas bon. Et c'est là où en fait les deux types de gens, donc ceux qui sont pro social, donc qui ont besoin de beaucoup de faire beaucoup de choses, vous savez, d'être en centre-ville, de voir les choses bouger, des voilà. Et ben c'est comment on appelle ça, des gens qui sont urbains, etc. Ces gens-là, on a besoin de les mettre ponctuellement dans la nature pour qu'ils créent cet équilibre. Et inversement, moi j'ai besoin ponctuellement d'aller dans les endroits où il y a du monde pour justement ne pas être carencé en ça, entre guillemets, si je peux dire les choses comme ça. Et je sais pas pourquoi je parlais de tout ça, mais oui, parce que justement cet article là sur la solitude, avec les 7 clés pour en finir avec la solitude, encore une fois, donc les choses qu'il y a écrites sont très bien, Mais je pense que la première chose, c'est savoir quel est votre penchant de base. Alors, je m'avancerai pas parce que je suis pas psychanalyste ni rien, mais je trouve quand même que de voir dans quelles conditions on a grandi peut aider sur ce pourquoi on est adapté. Moi, je sais que je suis beaucoup plus rassuré en pleine nature qu'en centre-ville. Alors que certaines personnes, on les met de nuit en pleine forêt, ils sont terrorisés. Moi, ça me pose... Enfin, je suis pas effrayé par ça, personnellement. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu ça. Enfin, j'allais couper du bois avec mon père dans la forêt de jour, de nuit, quand j'étais petit. Je n'ai pas... ça n'est pas pour moi des lieux hostiles. Par contre, un centre-ville, je ne vais pas dire que je serais terrorisé d'aller en centre-ville la nuit, ce n'est pas vrai, puisque je l'ai déjà fait plein de fois, mais je me sens moins dans mon élément. C'est-à-dire que j'ai moins les codes de la ville que de la nature. Et essayez de voir, pour vous, est-ce que vous avez plus les codes du village, de la ville, du gros centre-ville, de la campagne et tout ça. Et ça peut, je pense, certainement vous aider à mieux vous connaître. Et à vous remettre un petit peu en question sur certaines choses. Donc c'est le point, se remettre en question, quoi. Bref, et se relier aussi pour essayer d'aller un petit peu voir l'opposé, quoi. Bref, je m'arrête ici. Ce sont des sujets que tout le monde n'a pas forcément envie de développer, mais je pense que ça va en lien avec un style de vie fitness, encore une fois, parce que les sentiments de solitude ne sont pas des sentiments positifs. Et vous le savez, pour tous ceux qui suivront ou qui ont suivi ce que j'ai raconté sur la volonté, dès qu'on commence à avoir un mal-être, une douleur physique ou mentale, ça a tendance à nous épuiser notre volonté. Donc, on a tendance à procrastiner, on mange moins bien, on fait moins de sport. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que ça n'est pas que sport, sommeil et nutrition. S'il y a aussi un gros facteur psychologique, style de vie. C'est pour ça que je parle de tous ces sujets divers et variés parce que je sais que ça vous intéresse et je sais aussi que c'est pertinent pour avancer dans une compréhension plus globale de notre style de vie fitness. Voilà. Bon, je m'arrête ici. La volonté, si vous avez envie de la développer ou en tout cas si vous voulez comprendre les codes de la volonté de faire que toutes les personnes qui ont une volonté de faire, si vous voulez comprendre leurs codes, c'est en lien dans les notes de ce podcast. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.